Josué, chapitre 14. Il y a quand même des liens avec le message de la semaine passée. Et ce que nous allons faire ce matin, nous allons accompagner Josué dans la mission que Dieu lui a donnée de conquérir Canaan, qui représente le pays de la victoire. Et le livre de Josué est le livre qui rappelle la victoire, et le livre de l'Ancien Testament qui rappelle la victoire des chrétiens qui se trouvent en Christ. Et on va commencer ce matin au verset 6. Alors, une des bonnes questions que je voudrais vous poser ce matin, déjà pour nous préparer au message, pour quelle raison vous êtes venu dans ce lieu ce matin? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans ce lieu ce matin? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est pour une chose bien particulière? Ou vous avez vraiment l'impression que Dieu vous avait donné rendez-vous dans ce lieu ce matin parce qu'il a une parole importante à vous adresser? Voilà. Alors ça, c'est la première question. Verset 6. Un jour, des gens de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphunné, le Kinésien, lui dit, « Tu te souviens de ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport sincère. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je manifestais une fidélité totale à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse me promit solennellement que je recevrai en partage le pays que mon pied avait foulé. Il a dit que ce serait là mon héritage à perpétuité, pour moi et pour mes enfants, à cause de la fidélité que j'ai manifestée à l'Éternel, mon Dieu. » Verset 10, « Il y a 45 ans que l'Éternel parlant ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Depuis ce temps-là, l'Éternel m'a gardé en vie selon sa promesse, et me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. » Verset 11, « Pourtant, je suis toujours aussi vigoureux comme au jour que Moïse m'envoya en exploration. J'ai autant de force que j'en avais alors, que ce soit pour combattre ou pour toute autre activité. » Verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Et le titre de ce message ce matin se trouve dans la première partie du verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. » Et j'espère que par la suite, après ce message, ça sera une des prières que vous pourrez réciter à tous les jours. « Ô Éternel, donne-moi donc cette montagne que tu as promis à tous ceux qui t'appartiennent. Donne-moi donc cette montagne. » Amen. Savez-vous que de nombreux chrétiens sont en train de gaspiller et de perdre leur temps aujourd'hui en essayant de la gagner? Même s'ils gagnent un bon salaire, c'est bizarre, on les retrouve souvent à bout de souffle. Au niveau spirituel, c'est la débâcle. Ils sont au neutre parce qu'ils n'ont pas encore réalisé que Dieu ne les a pas destinés à vivre dans la vallée de dépression, du découragement, mais qu'il les a destinés à vivre victorieusement à l'endroit le plus élevé de la montagne. Nous sommes appelés à vivre, frères et sœurs, sur les collines, sur les montagnes ou les sommets, ensoleillés de la montagne que Dieu, notre Dieu nous a donnée. Caleb faisait partie de ce groupe d'hommes. Il a été le premier alpiniste spirituel que la Bible mentionne. Et nous allons regarder ce matin l'enseignement que nous pouvons retirer de la vie de Caleb avant d'entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais prendre quelques instants pour vous donner un résumé de ce qui est survenu avant le chapitre 12. Je rappelle que le livre de Josué est plus qu'un livre d'histoire. Il est lui-même une illustration de la victoire qu'un chrétien est appelé à rechercher. L'apôtre Paul écrit que ces choses nous sont arrivées, c'est-à-dire il parle des choses dans l'Ancien Testament, il nous dit ceci, « Ces choses leur sont arrivées à Josué, à Caleb, à Moïse, à David, à tous ceux qui nous ont précédés, sont arrivées pour servir d'exemple, et qu'elles ont été écrites pour votre instruction, pour mon instruction, à nous qui vivons à un temps où la fin est proche. » C'est quoi ce pays de Canaan qu'il devait conquérir? C'était la terre promise, frères et sœurs. Que représente ce pays? Il représente la vie victorieuse du chrétien et le repos pour le chrétien. Canaan signifiait pour eux la délivrance. Vous vous souvenez, jusqu'à ce moment-là, ils avaient été un peuple d'esclaves, soumis aux Égyptiens pendant plus de 400 ans. Frères et sœurs, une deuxième question que j'aimerais vous poser ce matin. Êtes-vous délivrés ce matin ou êtes-vous toujours l'esclave du diable? Il dit, sautez, vous dites à quelle hauteur? Si c'est votre cas, ne voulez-vous pas être libéré ce matin? Ne voulez-vous pas que les paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 14, deviennent une réalité dans votre vie? Est-ce que vous croyez que ces paroles sont possibles pour la vie du chrétien, ou si vous pensez au plus profond de vous que cette parole que l'apôtre Paul a citée dans Romains chapitre 6, verset 14, est une impossibilité totale pour les chrétiens qui sont nés de nouveau? Il dit ceci, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. » Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Est-ce que vous y croyez au plus profond dans votre cœur, ou si vous vous dites, « C'est impossible tant que je ne suis pas au ciel. » C'est possible maintenant sur la terre que le péché n'aura plus aucun pouvoir sur vous, parce qu'en Jésus-Christ, à travers ce qu'il a accompli sur la croix, vous avez été délivré de la puissance du pouvoir que le péché exerçait dans votre vie si vous êtes né de nouveau. Que vous croyez à cette parole. Qu'est-ce qui faisait la force de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui faisait la force des héros de la foi qui nous ont précédés auparavant? Ils s'étaient appropriés les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ils croyaient que les promesses de Dieu étaient possibles pour leur vie parce qu'ils savaient qu'ils servaient le Dieu qui accomplissait l'impossible. Et la parole nous dit à travers la bouche de Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes amen à ça? Ce matin, peut-être que dans votre vie, vous pensez que Dieu, il y a quelque chose d'impossible que Dieu peut réaliser dans votre vie. Si c'est conforme à sa volonté, il n'y a rien qui soit impossible que Dieu puisse réaliser dans votre vie. Rien qui soit impossible. Et tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. En dehors de cela, Dieu n'a jamais promis qu'il réaliserait l'impossible pour contenter nos petits besoins, nos petits goûts personnels. Mais ce que Dieu veut, c'est surtout répondre à nos besoins pour se glorifier à travers vous et à travers moi. Non seulement la terre promise était synonyme de libération, mais elle était également synonyme de repos. Baignez-vous dans le repos que le Seigneur vous a accordé quand il vous a sauvé ce matin. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient erré et tourné en rond sur le sol brûlant du désert. Et maintenant, ils entraient dans un pays qui, selon ce que Dieu leur avait dit, serait pour eux, un lieu de repos. Frères et sœurs, combien de chrétiens aujourd'hui ont tout ce qu'ils veulent, sauf le repos? Ils seraient tellement nerveux, tellement frustrés, qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils me font penser à un plongeur en haute mer qui avait reçu ce message dans ses écouteurs. « Monte vite, le bateau est en train de couler. » Ils ne savent pas quoi faire, ils sont juste frustrés, alors qu'ils sont supposés se reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Le mot « frustration » ne devrait jamais apparaître dans la bouche d'un chrétien, parce que, je vais vous donner ce que ça signifie, c'est avoir une attitude ou un comportement démontrant que nous n'avons pas eu ce que nous avions désiré ardemment. Non seulement la terre promise est synonyme de libération et de repos, mais elle est également synonyme de rafraîchissement. Jusqu'à là, ils avaient tourné en rond dans le désert. Maintenant, ils entraient dans le pays de Canaan, un pays où coulait le lait et le miel, où il y avait des figues, des raisins, des grenades, du maïs et du vin. Et aujourd'hui, si vous allez visiter cette région, c'est une région qui est fertile, cette région. Non seulement la terre promise était synonyme de libération, de repos et de rafraîchissement, mais elle était aussi devenue une réalité dans votre vie. Frères et sœurs, le jour, à partir du moment où vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'était synonyme pour vous de libération? De repos, de rafraîchissement. Est-ce que c'est devenu une réalité dans votre vie d'être humain? Ces promesses que Dieu fait dans sa parole veut accorder à quiconque a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à là, ils avaient entendu des sermons sur Canaan et c'est tout ce qu'ils avaient entendu quand ils étaient en Égypte et quand ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils voyaient par eux-mêmes. Tout ce que Dieu leur avait annoncé était devenu une réalité pour eux-mêmes. Mais mon plus grand désir, frères et sœurs, ce matin, c'est que nous fassions tous l'expérience de la victoire promise par Dieu en Christ au quotidien. Ce serait une grande récompense pour moi ce matin, si au-delà d'un sermon que vous entendez, cette qualité de vie promise par Dieu à chacun de ses enfants devienne une réalité pour vous et pour moi, et que vous entriez dans votre Canaan spirituel, c'est-à-dire la vie chrétienne victorieuse que Dieu promet pour vous. Qui Josué représente-t-il? Josué, qui conduisait le peuple à cette époque, était une illustration et un type de Jésus-Christ. Josué signifie Jésus dans l'Ancien Testament, et Josué représente Jésus qui nous a fait rentrer dans le pays de la victoire. Oui, qui Caleb représente-t-il? Caleb représente non seulement les chrétiens en train de conquérir son Canaan, mais le chrétien qui est sur le point de recevoir les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu lui a promis de recevoir. La première chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est le premier caractère de Caleb. Regardez ici au chapitre 14 de Josué et remarquez ces versets. Tout d'abord, dans la dernière partie du verset 8. Caleb dit, « Mais moi, je suivrai entièrement l'Éternel, mon Dieu. » Et regardez la dernière partie du verset 9. Il lui est dit, « Tu as entièrement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. » Verset 14, je veux que vous remarquiez la dernière partie du verset 14, où il est écrit qu'il avait entièrement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans les versets 8, dans les versets 9 et dans les versets 14, Dieu va répéter à trois reprises que Caleb était un homme engagé. Frères et sœurs, êtes-vous engagés pour le Seigneur ce matin? Dieu veut lever dans son Église des Caleb pour pouvoir se glorifier à travers ses frères, à travers ses enfants. Caleb donnait à Dieu tout ce qu'il avait en lui, chaque centimètre, chaque gramme, chaque nerf, chaque fibre, tout ce qu'il y avait dans Caleb, il l'avait donné au Seigneur. Caleb était un homme entièrement consacré au Seigneur son Dieu. Combien d'entre nous pourraient dire la même chose ce matin? J'ai tout donné à Jésus-Christ, je suis engagé à Jésus-Christ pour Dieu. Peut-être que certains se disent, Dieu ne s'attend pas cela à moi. Et si c'est ce que vous pensez, alors je tiens à vous dire que vous vous trompez à 100% ce matin. Dieu mérite tout ce que vous avez. Chers amis, tout doit appartenir au Seigneur Dieu. Et nous le devrions dire avant tout, avec tout ce qui est en moi. Je veux suivre entièrement le Seigneur, mon Dieu. Malheureusement, les chrétiens qui manquent de conviction ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop attachés à leur habitude de vie et qu'ils craignent de prendre des risques. Ils ne vaincront jamais leur Canaan. L'apôtre Paul dit, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant, je me reporte vers ce qui est en avant. » Et c'est ce qui a fait de lui un grand homme. Dwight Moody, un des grands prédicateurs, un des grands évangélistes, celui qui a ouvert la porte aux croisades de Billy Graham, ainsi de suite, qui a vécu au 19e siècle, est reconnu pour avoir été un grand évangéliste. Et j'aimerais vous partager une expérience qu'il a vécue, et qui, dit-il, a été l'un des points tournants de son ministère. Comme vous savez, Moody a d'abord commencé comme vendeur de chaussures, ensuite il est devenu moniteur d'école du dimanche, avant de devenir un puissant évangéliste. Il était allé en Angleterre un jour pour prêcher l'Évangile, mais il avait constaté qu'il n'avait pas beaucoup de puissance dans sa vie, et lors de sa deuxième visite en 1867, il a rencontré un évangéliste qui s'appelait Henry Valley. Un évangéliste qui se contentait de prêcher en plein air dans les champs de cultivateurs, et ainsi de suite. Et voici ce que cet évangéliste lui a dit. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui lui est entièrement consacré. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui lui est entièrement consacré. Quand Dwight Moody entendit ces paroles, il s'est dit, « Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. Je veux me consacrer entièrement à lui. » Et Dieu a pris ce simple employé de chaussures, presque illettré, sans aucun diplôme, non entraîné, et il va l'utiliser pour secouer deux continents pour Dieu, le continent américain et le continent européen. Frères et sœurs, est-ce là vraiment ce à quoi nous aspirons ce matin? Ou venons-nous simplement par habitude nous asseoir à l'Église le dimanche matin en pensant que nous faisons là une faveur à Dieu? Nous savons que ce n'est pas le fait d'être présent à l'Église ou ce que nous donnons pour l'avancement de l'œuvre, de son œuvre qui réjouisse Dieu, mais plutôt de voir que nos vies lui appartiennent entièrement et que nous sommes totalement engagés pour lui. Avez-vous déjà pris cet engagement? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ce matin? Le Seigneur Jésus n'a pas versé son sang dans ce monde pour que nous servions la chair, le monde et le diable. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit Paul, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Paul nous rappelle ici que si nous sommes nés de nouveau, nous ne nous appartenons plus. Nous nous appartenons à Jésus-Christ qui a payé ce droit au prix de sa vie. Imaginez ce que Dieu pourrait faire avec une Église dont les membres seraient des Caleb, dont le cœur appartiendrait entièrement à Dieu. N'aimeriez-vous pas voir ce que Dieu pourrait faire dans le monde avec une seule Église, remplie de personnes qui lui sont entièrement consacrées? C'était là le genre de croyant qu'était Caleb. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas ce matin? La deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est la confiance de Caleb, parce que nous voyons le caractère, le caractère chrétien de Caleb va le conduire à développer une confiance dans ce que Dieu avait dit. Caleb était un homme qui avait une confiance inébranlable en la parole de Dieu. Regardez le nombre de fois que la phrase au chapitre 14, remarquez le nombre de fois que la phrase « Le Seigneur a dit » ou quelque chose de semblant traverse ce passage des Écritures. Regardez au verset 14, au chapitre 14, verset 6. C'est Josué qui parle. Tu sais la parole que l'Éternel a dite. Frères et sœurs, est-ce qu'on sait, nous, la parole? Est-ce qu'on sait c'est le contenu de ce que Dieu nous dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'on sait du contenu de ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'on a retenu? Ici, on dit, pardon, tu sais, Caleb, la parole que l'Éternel a dite. Tu la connais, cette parole. Et c'est Josué qui dit ça, pardon. Et au verset 10, l'Éternel, Caleb dit, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. C'est-à-dire, l'Éternel m'a promis des choses et c'est ce qui s'est accompli dans ma vie. Puis au milieu du verset 20, il dit, l'Éternel a dit cette parole à Moïse. Remarquez maintenant au verset 12 ce qu'il dit. Maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, Moïse. Regardez à la fin du verset 12 dont l'Éternel a parlé. Est-ce que vous voyez encore et encore, le Seigneur a dit, le Seigneur a parlé? Savez-vous en quoi Caleb avait mis sa confiance? Il avait mis sa confiance dans la parole de Dieu. Son arme pour aller au combat, c'était la parole de Dieu. Caleb avait une montagne à conquérir et il savait que Dieu lui avait donné cette montagne et il va tout faire pour la conquérir. Rappelez-vous que lorsqu'il montait cette montagne avec l'épée à main, il montait aussi cette montagne avec le titre de propriété dans sa poche parce que Dieu la lui avait donnée. Le Seigneur avait promis qu'il la tiendrait et sa confiance découlait de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit ceci. « Contentez-vous de ce que vous avez, car lui-même Dieu a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Frères et sœurs, Dieu a promis de tous nous donner une montagne. Est-ce que nous prenons tous les moyens nécessaires pour arriver au sommet de cette montagne? On va voir à la fin du message à quoi il correspond. À quoi correspond ce sommet de la montagne. Et vous allez pouvoir savoir ou deviner par vous-même si vous êtes encore au pied de la montagne, si vous êtes en train de la monter, ou si vous n'avez pas encore commencé à la monter, ou si vous êtes en train d'atteindre le sommet. Mais l'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte que tous ceux qui lui appartiennent puissent un jour se retrouver sur le sommet de la montagne. Combien il est important non seulement de prendre au sérieux la parole de Dieu, mais de s'en imprégner afin que nous puissions nous aussi dire « Dieu a dit ». Voilà pourquoi j'obéis. Dieu a dit. Voilà pourquoi j'agis. Savez-vous ce que Dieu a dit dans ce livre? Comprenez-vous les grandes et éternelles promesses de ce livre? Les connaissez-vous, frères et sœurs? Savez-vous ce qu'a fait Caleb, un si grand homme? Ce qu'a fait de Caleb, pardon, un si grand homme? Caleb a cru la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi Caleb a cru en la parole de Dieu? Parce que son cœur était pur et qu'un cœur pur est le terrain fertile sur lequel la semence de la parole de Dieu peut prendre racine. Frères et sœurs, une des raisons pourquoi la parole de Dieu ne signifie pas grand-chose pour certains et que malgré le fait qu'ils entendent la parole de Dieu, celle-ci leur coule sur le dos, comme l'eau sur le dos d'un canard, c'est parce qu'ils ont la tête ailleurs. Et sans jugement, je veux dire ceci, pendant que la parole est prêchée, c'est ma constatation, en tout cas, à différents endroits où je vais. Certains se demandent s'ils vont obtenir la signature d'un contrat important ou ce qu'ils pourraient bien préparer pour dîner, dans quel restaurant ils vont aller manger après le culte. D'autres pensent au match de football qui aura lieu dans quelques heures. Bref, leur tête et leur cœur sont à des milliers de kilomètres de l'endroit où ils se trouvent parce qu'ils ne sont pas affamés pour Dieu et parce qu'ils n'en veulent pas. Mais voici Caleb, un homme non seulement dont le cœur appartenait entièrement à Dieu, mais qui va s'appliquer à obéir à Dieu de tout son cœur. Caleb avait cette sorte de foi dont l'Église a besoin aujourd'hui. Quelle est la mesure de votre foi ce matin, frères et sœurs? Quelle est la mesure de votre foi? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'opérer dans votre vie ce qu'il a fait pour Caleb, ce qu'il a fait pour Josué, ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour tous, à travers tous ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, à travers tous ceux qui nous ont précédés dans le Nouveau Testament? Frères et sœurs, est-ce qu'on est emprisonné par notre routine de tous les jours? On se lève le matin, on mange, on s'en va travailler, puis c'est sûr, on est concentré là-dessus. Et Dieu, ce soir, quand on rentre, on va lui laisser une petite place. La semaine passée, on a parlé que Dieu était présent partout. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent partout? Partout. Et ce qu'il veut surtout, c'est qu'on ressente sa présence jour après jour, minute après minute, seconde après seconde dans notre vie. Si le caractère chrétien de Caleb va le conduire à développer une confiance dans ce que Dieu avait dit, cette confiance en Dieu va lui donner du courage pour affronter les épreuves et les défis qui se présenteront devant lui tout au long de sa vie. Frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Nous n'aurons jamais la sorte de courage, l'audace, l'assurance que Dieu veut que nous ayons pour relever les défis et faire face aux épreuves de la vie, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un cœur pur devant Dieu et que nous ne laisserons pas sa parole s'incrustrer dans notre cœur. Avant que Caleb puisse prendre possession de cette montagne glorieuse que Dieu avait promis de lui donner, il devait en chasser les terribles habitants qui y habitaient. C'était un pays qui regorgeait de lait et de miel. C'était une région qui possédait tellement de richesses avec des vignes, qui avaient des vignes à perte de vue, comme j'ai dit tantôt. C'était là que Caleb et les 10 espions s'étaient rendus pour explorer la région. Et au bout de 40 jours, ils avaient rapporté avec eux une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils avaient portée à deux au moyen d'une perche. Ça vous donne la grosseur des... Je ne sais pas si ça vous donne la grosseur des raisins, mais en tout cas, ça vous donne la grosseur de la branche qu'ils ont portée avec eux. Ils avaient aussi pris des grenades et des vignes, des figues, nous dit le texte biblique. C'était un pays riche, mais il y avait de redoutables adversaires qui vivaient à cet endroit. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler qu'il n'y a rien qui nous tombe du ciel sans faire des efforts pour l'obtenir. Si vous cherchez une manière facile de vivre la vie chrétienne, une façon de faire qui n'exige pas que vous acceptiez d'en payer le prix pour vivre victorieusement, vous êtes mieux d'oublier ça. Caleb a dû affronter beaucoup d'opposition à ce moment-là. Et tous ceux qui veulent marcher comme Caleb vont ressentir beaucoup d'opposition aussi. Mais voilà, il y a toujours une occasion favorable qui se présente à nous d'accomplir un bon travail, un grand travail, bien que les adversaires soient nombreux et que les obstacles ne manquent pas. Et le premier obstacle que Caleb a dû vaincre ici, ce sont les sauterelles. C'est extraordinaire, hein? C'est qu'avant de vaincre les géants, il a dû vaincre les sauterelles. Regardez chapitre 14, versets 7 et 8. J'aimerais que vous remarquiez certains des adversaires que Caleb a dû surmonter par son courage. Premièrement, il a dû vaincre les sauterelles. Il va y avoir 23 adversaires. On va les voir à la fin. Mais regardez chapitre 14, versets 7 et 8. Caleb se rappelle de ce qui s'est passé il y a 45 ans, quand il est allé dans la région d'Hébron, espionner pour la première fois le pays de Canaan. Il dit, j'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa explorer ce pays. À mon retour, je lui fis un rapport sincère. Tandis que les hommes qui m'avaient accompagné décourageaient le peuple pour parcourir le pays, et je lui ai rapporté ce qui était dans mon cœur. Frères et sœurs, est-ce que vous faites partie des gens de l'Église qui sont des encourageurs ou des décourageurs? Je dois vous dire honnêtement, quand on regarde la Bible, il y a plus de décourageurs dans une Église qu'il y a d'encourageurs. Sur 10 personnes, sur 11 personnes, il y avait 10 personnes qui ont tout fait pour décourager le peuple d'entrer dans Canaan, et un seul qui a su se tenir debout. C'est toujours la minorité, comme dans l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est toujours un reste qui est là pour encourager le peuple de Dieu à avancer, à progresser, à ne pas abandonner, à poursuivre l'œuvre que Dieu leur a préparée, finalement les a appelés à travailler. Comment s'y ont-ils pris pour décourager le peuple? Regardez. Vous arrivez, je ne sais pas si vous voulez y aller, c'est dans Nombre chapitre 13, verset 33, pour ceux qui ont leur Bible. Ce sont les paroles qui sont sorties de leur bouche. Ils ont utilisé leur bouche lorsqu'ils sont revenus du pays de Canaan pour décourager les gens. Et c'est souvent à travers notre bouche qu'on entend des paroles qui sortent pour nous décourager, de poursuivre le rêve de Dieu, pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Ils ont dit, quand nous étions dans ce pays, nous avons vu des gens de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des sauterelles. Frères et sœurs, les camarades de Caleb, ils souffraient du complexe des sauterelles. Frères et sœurs, savez-vous ce qui ne va pas avec beaucoup de gens qui fréquentent nos églises aujourd'hui? Ils souffrent d'un complexe de sauterelles. Savez-vous ce que certains pensent lorsque je prêche? Ils pensent que je suis déconnecté de la réalité, que je suis à côté de mes pompes. Ils se disent je ne sais même pas de quoi je parle lorsque je vous dis aux gens, lorsque je dis aux gens qu'ils doivent se donner entièrement au Seigneur Jésus-Christ, ou lorsque je leur dis qu'ils doivent garder leurs pensées captives en Jésus-Christ. Personne ne peut vivre de cette façon. Ça m'arrive, je vous dis ça, hein? Personne ne peut vivre de cette façon Et là, on dit, ben, les gens se disent ça, personne ne peut vivre de cette façon. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui, celui qui prêche en avant? Moi, j'aime bien l'Église, je ne veux pas être bousculé. Je ne veux pas être remis en question. On est dans cette époque-là, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui font la grève le dimanche, hein, parce qu'on les a bousculés un peu le dimanche d'avant, qui vont être des semaines sans venir à l'Église. Frères et sœurs, si vous venez à l'Église, puis en aucun moment dans un message, vous ne sentez pas que Dieu veut vous bousculer, que Dieu veut vous mettre en question, eh bien, soit que c'est le prédicateur qui ne fait pas son travail, ou c'est parce que c'est nous qui avons les deux oreilles bouchées. Frères et sœurs, l'Église, c'est pas une discothèque. L'Église, c'est un endroit où Dieu veut parler à son peuple, où Dieu veut parler à son peuple de façon à les interpeller, pour qu'ils en reviennent toujours à se poser la question, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie qui va m'amener demain matin à ressembler davantage à la personne de Jésus-Christ? C'est ce à quoi Dieu vise à travers ses messages. Sommes-nous prêts à sacrifier nos vies pour la cause de Jésus-Christ? Lui, il l'a fait. Il a sacrifié sa vie pour des gens comme vous et moi, qui étions ennemis quand il est monté sur la croix. La Bible nous dit, alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Souffrez-vous du complexe des sauterelles ce matin? Vous vous dites une sauterelle? Il y a beaucoup trop de géants dans ce pays. Personne ne pourrait jamais vivre de cette façon. Savez-vous qu'avant que Dieu puisse faire quelque chose de bon et de grand dans une église, ses membres doivent vaincre les sauterelles? Les sauterelles, il y en a beaucoup dans nos églises. Ce sont ceux qui sont assis dans l'église et qui se disent, on ne peut pas y arriver. On n'y arrivera jamais. Ce n'est pas possible de penser que nous allons arriver. Exactement ce que les camarades de Caleb disaient. Ces personnes se contentent de se retirer et de vivre dans la sécurité relative des déchets du désert, car non seulement il n'y a pas de géants dans les déserts, mais on n'y trouve pas non plus de raisins. Pourtant, c'est là que la plupart des gens choisissent de vivre. Ils ne possèdent pas les biens que Dieu leur a réservés, car ils souffrent d'un complexe de sauterelles. Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, disait-il. Ils sont bien plus forts que nous. Dieu merci, Caleb n'a pas suivi la majorité. Il s'est tenu debout. Non seulement il s'est tenu debout, mais il leur a dit de se taire. Il a dit, allons-y, nous nous emparons de ce pays, nous en sommes capables. Regardez le deuxième obstacle que Caleb a dû vaincre. Verset 12. Dans un premier temps, il a dû vaincre les premiers géants, les sauterelles. Deuxième obstacle, les géants. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim. La deuxième chose que Caleb a dû vaincre, ce sont des géants. Que sont maintenant les Anakim? Que représentent les Anakim? Ce n'est pas quelque chose que l'on prend pour soigner un mal de tête. Les Anakim, ce sont ceux qui vivent dans des grandes villes bien fortifiées. Les Anakim étaient donc des géants parce qu'il y avait des géants à cette époque. Caleb dit, « Je sais qu'il y a des géants dans ce pays. Si l'Éternel est avec moi, je les en chasserai, comme l'Éternel l'a lui-même dit. » Frères et sœurs, si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Je t'emmène à ça. Si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Oui, amen. Caleb et ses camarades ont tout vu pour être influencés au point de dire « on n'y retourne plus, ça n'a pas de sens. On préférerait vivre dans le désert plutôt que de recevoir les bénédictions que Dieu en réserve pour nous dans Canaan. » Caleb est le seul qui s'est tenu debout. Et il y a combien de chrétiens qui, sans s'en rendre compte, eh bien, qui réfléchissent comme les 10 camarades de Caleb. « Oh non, écoute, on aime mieux... » Non, on préfère se contenter du désert que de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché par la vue et non par la foi. Et le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Vous rappelez-vous ce que Caleb a dit à Moïse en Nombre, chapitre 14, versets 8 et 9, lorsqu'il est allé explorer le pays pour la première fois et qu'il a vu tous ces géants? Il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, il dit, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez pas les gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. C'est un enfant de Dieu qui parle. On n'a rien à craindre. Si Dieu nous est favorable, on ne va faire qu'une bouchée de ces géants. Arrêtons de marcher par la vue. Vous préféreriez aller dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a des serpents? Un petit oasis de temps en temps? Vous voulez encore profiter de la manne qui vous écœurait à l'époque que vous tourniez en rond dans le désert? Le désert, c'est très symbolique comme figure. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Et il y a des chrétiens qui, toute leur vie, vont tourner en rond parce qu'ils refusent de marcher en avant pour aller chercher les bénédictions que Dieu leur réserve dans leur vie et qu'ils puissent témoigner fidèlement, victorieusement, de ce que Dieu a accompli dans leur vie. Comment Dieu s'est laissé comment Dieu a fait en sorte de pouvoir se débarrasser, de les débarrasser, pardon, de tout ce qui les empêchait, de toutes les entraves, les obstacles qui les empêchaient d'atteindre le sommet de la montagne que Dieu réserve à chacun de vous. Une mère doit dire à son enfant, Martin, mange tes épinards. Non, c'est déjà arrivé, ça, hein? Hein? Ça commence très jeune, hein, avec les petits pots de bébé, hein? Il ne faut jamais commencer par les fruits, hein? C'est toujours par les légumes, parce que s'ils goûtent le sucré, c'est difficile de les faire bouffer, les légumes. Hein? Alors, Martin, mange tes épinards. Non, je ne les mangerai pas, les épinards. Je ne veux pas d'épinards. Mange tes épinards, je n'en veux pas. Mange-les, c'est bon pour toi. Je n'en veux pas, je n'aime pas ça. Ça va te faire grandir, tu vas devenir fort comme papaye. Non, je n'aime pas les épinards. Savez-vous ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Mon cher enfant, mange maintenant ton anakim. Et je réponds, je ne veux pas combattre aucun géant. Vas-y, c'est bon pour toi, dit le Seigneur. Non, je n'en veux pas. Vas-y, mange-les, c'est bon pour la santé. Frères et sœurs, l'anakim, c'est le petit déjeuner de tous les champions de Dieu, le saviez-vous? Vous est-il déjà arrivé d'essayer de vous sortir d'une situation difficile et que vous soyez dit, moi je ne veux pas de problème, moi je veux avoir la paix, moi je ne veux pas de difficultés. Avez-vous déjà oublié que les difficultés que Dieu vous permet de vivre sont précisément ce qui vous rendra fort? Ils sont du pain béni pour vous, car ils sont vos anakim. Prassoyez-vous, prenez le temps de manger vos anakim. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée pour te faire du mal sera inefficace, promesse de la parole de Dieu. Toute arme forgée pour te faire du mal sera inefficace. Et si quelqu'un veut t'accuser devant un tribunal, tu pourras le faire condamner. Voilà la part, l'héritage que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Frères et sœurs, si nous pouvions seulement comprendre que ces choses que nous pensons être des difficultés ne sont pas des difficultés, mais plutôt des opportunités. Connaissez-vous la différence entre un pessimiste et un optimiste? Un pessimiste voit une difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Je vais la répéter, celle-là. Un pessimiste, il voit une difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste, il voit une opportunité dans chaque difficulté. Êtes-vous un pessimiste ou un optimiste ce matin? J'ai entendu parler d'un homme qui est allé en Afrique en tant que vendeur de chaussures. Il est resté là un certain temps, puis il a renvoyé un courrier à sa compagnie en disant, « Transférez-moi dans un autre pays, il n'y a pas de marché ici. » Son directeur lui aurait demandé pourquoi il voulait être transféré. Il a répondu, « Les gens d'ici ne portent pas de chaussures. » Ils l'ont ramené à la maison, ils ont envoyé un autre homme. Il était là depuis quelques semaines seulement que le même directeur va recevoir un courrier du nouveau vendeur sur place qui disait, « Envoyez-moi toutes les chaussures que vous pouvez obtenir, je n'ai jamais vu autant de clients potentiels. » Oui, la différence entre un optimiste et un pessimiste, entre un pessimiste et un optimiste. Comment ne pas nous réjouir de voir Caleb qui voyait les choses du point de vue de Dieu? Frères et sœurs, nous avons besoin, nous aussi, de voir les choses à partir du point de vue de Dieu et surmonter le complexe des sauterelles. Est-ce que vous savez pourquoi les gens développent un complexe de sauterelles? Parce qu'ils regardent un géant à partir de leur point de vue. Nous devons regarder un géant à partir du point de vue de Dieu. Si c'est votre cas ce matin, vous devez cesser de dire, « Regardez jusqu'à quel point il est plus grand que moi. » Vous devez commencer à dire, « Regardez jusqu'à quel point il est petit par rapport à Dieu. » Voyez-vous toute la différence? Je répète, vous devez cesser de vous dire, « Je regarde jusqu'à quel point il est plus grand que moi. » Vous devez commencer à dire, « Regardez jusqu'à quel point il est plus petit que moi. » Et le géant, si vous le voyez plus petit que lui, que vous voyez que Dieu est plus grand que lui, eh bien, qui peut vous arrêter, frères et sœurs? Qui peut vous nous arrêter? Quand vous montez dans un avion, vous regardez vers le bas et les choses qui sont au-dessus de vous semblent tellement petites, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que c'est des fourmis. Vous ne pouvez pas faire la différence entre quelqu'un qui mesure 2 mètres et un autre qui mesure 1,50 m. Les gens ressemblent à des fourmis. Une dame qui voyageait pour la première fois dans un avion dit à son mari, « C'est vrai, quand on regarde sur le sol, les gens ressemblent à des fourmis. » Son mari lui répondit, « Comme tu es drôle, ce sont de vraies fourmis, nous n'avons pas encore décollé. » Si vous montez sur le toit d'un building et que vous regardez en bas, les choses vont vous paraître beaucoup plus petites. Vous n'avez pas l'impression que nous devrions cesser de dire aux gens d'arrêter de regarder en l'air et leur dire de continuer à regarder en bas, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes, frères et sœurs. Nous devons voir les gens comme Jésus les voit, et non pas comme le monde voit le monde. Nous devons voir les gens à partir de son point de vue. Frères et sœurs, l'esprit qui est en nous est beaucoup plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde, nous dit l'apôtre Jean, pardon. Il n'y a ni un géant du doute, ni un géant de la détresse, ni un géant de la peur, et ni un géant du péché qui ne devrait pas tomber devant un chrétien rempli du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre victorieusement, et pour y arriver, nous avons la parole de Dieu gravée dans notre cœur et croire que Dieu a déjà remporté la victoire pour nous. Frères et sœurs, entre nouveau de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons accepté dans notre cœur qui vient de la parole de Dieu et qui est gravé dans notre cœur? Que personne ne peut remettre en doute ce qui a été gravé dans notre cœur. Quels sont les versets? Quelles sont les paroles que Dieu, à travers ce qu'il nous a laissé dans la Bible, quelles sont ces paroles qui sont gravées dans notre cœur et que personne ne peut nous voler, que personne ne peut nous ébranler, dire « Ah, ça, je pense que c'est plus bon pour aujourd'hui. Ah, ça, je ne suis pas convaincu que c'est encore c'est au sens figuré ou c'est vraiment littéral. » Quelles sont les paroles qui sont gravées dans votre cœur qui vont vous empêcher d'être ébranlé, qui vont vous permettre de persévérer votre pèlerinage terrestre jusqu'au bout? Quelles sont ces paroles, frères et sœurs? N'est-il pas triste de voir des membres du peuple de Dieu vivre constamment dans la défaite? L'Église de Dieu vivant est appelée à se déplacer comme une puissante armée. Et comme Caleb, nous devons dire, « Je veux cette montagne, elle m'appartient, car Dieu me l'a donnée. Je ne suis pas venu pour être vaincu par l'ennemi, mais pour sortir victorieux de cette expérience. » Regardez le troisième obstacle. Caleb a dû vaincre les cheveux gris. C'est pas ma tête, là, mais les cheveux gris, regardez. Caleb avait du caractère, il marchait fidèlement avec le Seigneur, et parce qu'il marchait fidèlement avec le Seigneur, il avait confiance en Dieu. Le Seigneur lui avait fait une promesse, et parce qu'il avait confiance en lui, il avait du courage non seulement pour vaincre les sauterelles, mais aussi pour vaincre les géants et pour vaincre les cheveux gris. Regardez ce qui est écrit au chapitre 14, dans la dernière partie du verset 10 et le verset 11. « Voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Pourtant, je suis toujours aussi vigoureux que lorsque Moïse m'a envoyé en exploration. » C'est-à-dire que je suis aussi fort que lorsque j'avais 40 ans. Dieu l'avait surnaturellement préservé. Il dit, « Le Seigneur m'a regardé comme il l'avait dit. » C'est intéressant d'avoir un chrétien qui s'approprie la parole de Dieu et qui dit, « Hey, ça marche! » Ça vous est-il déjà arrivé, ça? Ça marche, la parole. Ça fonctionne dans ma vie. Est-ce pas stimulant, ça, quelqu'un qui veut vous voir, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pris, lui, comme médicament aujourd'hui? Non, c'est vrai, mais ça marche. Êtes-vous convaincu que ça marche? Êtes-vous convaincu? Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. C'est le plus dur pour nous à accepter que nous devons accepter par la foi ce que Dieu nous révèle dans sa parole pour en arriver à dire à un moment donné, « Ça marche! » On peut compter sur Dieu, ça marche! On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant, ça marche! Et je vais marcher fidèlement avec Dieu et ses promesses vont s'accomplir dans ma vie, ça marche! Peut-être pas nécessairement ce que je m'attendais, mais le Seigneur va me combler, il ne me décevra jamais. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, vous verrez que ça sera une réalité dans votre vie. Les épreuves que Dieu permet que vous viviez dans votre vie, elles ne dépasseront jamais votre capacité de résistance. Et en plus, Dieu fait une promesse, j'ai déjà la solution pour t'en sortir. Mais avant de te donner la solution, Tu as une leçon, j'ai de l'instruction, j'ai un enseignement de donner à travers cette épreuve. Ça marche! Le but d'une épreuve, c'est pas de nous, qu'on s'en sorte diminuer, c'est qu'on en sorte grandir. Est-ce que ça marche ça, dans votre vie? Ou si vous êtes complètement déprimé, dégonflé quand vous avez vécu une épreuve? Parce que vous avez oublié que Dieu était derrière cette épreuve-là. Que Dieu l'avait permis. Ça marche! Vous ne commencerez pas à prier que Dieu vous envoie un paquet d'épreuves, mais vous allez vous dire, Seigneur, tu es fidèle. Moi, je pensais que tu m'en avais envoyé une dose trop forte, mais Seigneur, je me sous-estime ou je me surestime, mais toi, tu me connais parfaitement. Je peux rendre témoignage qu'à travers cette épreuve, j'en suis sorti grandi. Et que cette épreuve, finalement, que je trouvais très difficile au début, eh bien, je peux dire que c'est une bénédiction que j'ai reçue de toi. N'est-il pas triste de voir des membres du peuple de Dieu vivre constamment dans la défaite? Reste de ça, il y a combien de gens qui m'ont témoigné et qui te parlent de Dieu là, comme s'ils sortaient du salon funéraire plutôt que de l'église, quoi. Qui ont le visage plus triste que les gens du monde. Mais qu'est-ce qui est encourageant d'aller avec ces gens-là? Tu dis, moi, pourquoi je changerais de royaume? Il y a de là deux fois plus malheureux que moi. Ah, tu es... Écoute, t'aimerais-tu ça accepter Jésus? Tu vas avoir de la joie débordante. Ah, ça va être terrible. Tu vas être en forme. Mais écoutez, hey, on peut être comme ça dans le monde, mais quand on a le Saint-Esprit qui habite en nous, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui parle à travers nous. C'est le Seigneur qui utilise notre bouche pour qu'on puisse rendre témoignage. On devrait à un moment donné un peu recrinquer, non? Oui. Mais on est recrinqué quand il sort de notre bouche et ce qu'on vit dans notre vie. Seigneur, ce n'est pas un tête-à-tête qui va avec vous un matin, c'est un cœur à cœur. Est-ce que votre cœur est ouvert pour recevoir ce que le Seigneur a à cœur de vous donner ce matin? Est-ce que vous savez, quand vous regardez la carte d'évangélisation, il n'y a que l'Europe où les églises sont en train de fermer une derrière l'autre? En Asie, ça se multiplie dans certaines provinces. En Afrique, l'Évangile, il n'y a pas de problème. On est rendu qu'on reçoit des pasteurs africains ici. On a besoin d'aide. Avant, on en envoyait. Maintenant, c'est eux qui nous en envoient. On a besoin d'aide ici. Et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on en finira bien par avoir des pasteurs chinois à un moment donné si ça continue. Il n'y a qu'en Europe que l'Église baisse, baisse, baisse. Parce qu'on se contente de rendre visite à l'Église. On ne vient pas nécessairement rendre visite au Seigneur, on vient rendre visite aux gens qu'on connaît bien. On fraternise. On est tombé dans ce piège-là dans beaucoup de nos églises en Europe, dans certaines églises au Québec. Je ne parle pas des États-Unis aussi. Ça, il y a toutes sortes de courants de pensée aux États-Unis. Je ne vous dis pas que les États-Unis sont meilleurs que les autres. On n'a rien à envier aux églises américaines. Mais frères et sœurs, l'Église est en danger en Europe. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne s'approprient pas la victoire que Christ a remportée à la croix pour chacun de nous. Pour chacun de nous. On se demande des fois pourquoi nos enfants ne nous suivent pas. Est-ce qu'on a reflété vraiment ce témoignage chrétien dans nos foyers? Au lieu de dire, bien, le pasteur n'a pas fait son travail, que les moniteurs d'école du dimanche n'ont pas fait leur travail, est-ce que nous, on a fait notre travail à la maison? Enseigner l'enfant dans ses voies de Dieu, il ne s'en détournera pas quand, lorsqu'il sera grand. Pourquoi il s'en est détourné? Qu'est-ce que c'est enseigner? Ce n'est pas juste de lui lire une histoire biblique avant qu'il dorme, c'est de lui expliquer l'enseignement qu'il y a dans cette histoire biblique pour qu'il puisse la retenir. Est-ce qu'on a vraiment enseigné nos enfants? Je ne porterai pas de jugement. Je connais un peu l'histoire de cette église. Si on avait conservé tout le monde depuis la fondation de cette église, il y aurait plus de 500 personnes dans cette église ici aujourd'hui. Plus de 500 personnes. Surtout avec les grosses familles que les Polonais avaient à l'époque, il y aurait plus de 500 personnes ici. Si on pense aussi que ces enfants se sont mariés, qui ont des petits, ont des enfants, et ainsi de suite, il y aurait plus de 500 personnes dans cette église. Je ne mets pas la faute sur les parents, je ne mets pas la faute sur le pasteur, je ne mets pas la faute sur personne. Simplement nous poser la question, est-ce qu'on a fait le travail que Dieu nous demande de faire auprès de nos enfants? Ça ne veut pas dire non plus que Dieu promet que tous nos enfants vont être sauvés. Ils vont faire un choix aussi. C'est pour ça que je ne porte pas de jugement. La simple question que je pose, est-ce que moi, j'ai fait le travail que Dieu m'a demandé pour faire en sorte, au moins, de me dire, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire auprès de mes enfants. Je les ai enseignés dans les voies du Seigneur et je laisse le reste dans les mains du Seigneur. C'est leur décision. Frères et sœurs, Dieu travaille d'un côté comme de l'autre. Dieu dit, il y a quelque chose ici, c'est pour vous, c'est à nous. Et puis Dieu vient et il vous donne non seulement les forces nécessaires, mais aussi la capacité de prendre possession de ce qu'il a promis. Là où Dieu guide, Dieu pourvoit. Et si Dieu a décidé de faire de vous un adolescent à 85 ans, il le fera. Peu importe ce qu'il faudra, peu importe le temps qu'il se le prendra, Dieu vous l'accordera. Caleb a eu le courage de vaincre les sauterelles, de vaincre les géants, de vaincre les cheveux gris. Il s'apprêtait maintenant à prendre les biens que Dieu lui avait promis dans le passé. Frères et sœurs, la vie chrétienne, je ne peux pas utiliser un mot nord-américain, c'est mal compris ici, mais la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui est ennuyant, c'est quelque chose qui est stimulant, voilà. Bon, chef, prends-nous stimulant. C'est quelque chose qui est stimulant. Ça devrait nous stimuler, quoi. Parce que chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de la présence de Dieu pour l'éternité. On bénéficie de sa présence sur la terre, mais chaque jour qui passe, on avance en âge. Et à un moment donné, on sait que le Seigneur nous reprendra. On sait qu'on se présentera devant lui. Et à ce moment-là, nous pourrons l'aimer d'un amour éternel comme lui nous aime d'un amour éternel. Vous imaginez, c'est ça la finalité de Dieu pour nous. On l'aime avec des moyens humains. On regarde à Christ, il nous a tellement aimés, on lui doit tout. Mais on est encore freiné par, même si on est chrétien, on est quand même freiné par ce côté humain qui est en nous. Et rendu au ciel, dans la félicité éternelle, dans le paradis, eh bien, Dieu nous dit que notre corps va être transformé. Et que l'amour qui est le sien sera le nôtre aussi envers lui. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas extraordinaire. Si le caractère de Caleb a fait de lui quelqu'un d'audacieux, cette audace va le pousser à conquérir sa montagne. Frères et sœurs, le plan de Dieu pour vous, et pour moi, c'est la victoire et non la défaite. Le nom Hébron signifie alliance ou fraternité. Et cette montagne, c'était le mont Hébron que Dieu lui demandait de prendre possession. Caleb est en train de dire, je veux cette montagne qui est synonyme d'alliance avec Dieu et de fraternité avec Dieu. Avez-vous remarqué qu'il a pris possession non pas d'une partie de la montagne, mais de toute la montagne? Savez-vous ce que cela signifie? La plénitude. Il a obtenu pleinement tout ce que Dieu avait pour lui. Et savez-vous pourquoi Hébron était un nom important? Cette région, elle était féconde. Savez-vous ce que Caleb était en train de dire? Je veux vivre sur la montagne que Dieu m'a donnée et qui est synonyme de fraternité, de plénitude et de fécondité. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu vous réserve. Dieu veut que vous vous appropriez la montagne qui est déjà vôtre. N'est-ce pas là votre plus grand désir? N'aimeriez-vous pas vivre au sommet d'une montagne en communion avec Dieu? Ne voudriez-vous pas que votre vie ressemble à une vigne qui produit du fruit en abondance? N'aimeriez-vous pas posséder entièrement les biens que Dieu a promis aux siens, afin que le fruit de l'Esprit se manifeste dans votre vie? Permettez-moi de vous rappeler quels sont les trois plus grands géants que vous allez devoir chasser. Je veux que vous regardiez un instant le verset 14 du chapitre 15. Nous avons les trois géants. On a leur nom en plus. Verset 14. Caleb chassa les trois clans anakites, celui de Shéchaï, celui d'Aïman et celui de Talmaï. Voilà les trois géants que vous allez devoir chasser dans votre vie. Puisque chaque nom avait un sens dans l'Ancien Testament, permettez-moi de vous rappeler ce que ces trois noms signifient. Le nom Shéchaï signifie « qui je suis ». C'est le premier géant. Il dit « vous voulez connaître mon nom? Mon nom est qui je suis ». Le deuxième géant, c'est Aïman. Ce nom signifie « ce que je suis ». Finalement, le troisième géant, c'est Talmaï. Il signifie « qu'est-ce que je peux faire ?» Je vous présente donc les trois plus grands géants que vous allez devoir chasser pendant toute votre vie. Qui je suis, ce que je suis et ce que je peux faire. Le géant de l'ego, qui je suis. Le géant de l'orgueil, ce que je suis. Et le géant de l'autosuffisance, ce que je peux faire. Voilà les trois géants qui doivent être chassés de nos vies. Et Dieu va travailler dans nos vies pour nous amener à dire « je ne peux pas, mais toi, tu peux, Dieu. De plus, Seigneur, tu as promis de le faire. » L'évangéliste Ian Thomas, qui a vécu au 20e siècle, a dit, « Dieu n'a jamais dit « tu peux », car lui seul peut. » Il a toujours dit que lui le ferait. Pourquoi ne le laissons-nous pas faire ce qu'il doit faire dans nos propres vies? Chers amis, dit-il, il existe un pays de victoire et il y a un moyen de vivre une vie chrétienne victorieuse ici-bas. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la défaite. Les chrétiens doivent posséder les biens que Dieu a promis de leur donner. Ils doivent vivre victorieusement en s'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent manger le fruit succulent qui est le fruit de l'Esprit qui dégage une bonne odeur d'amour, de joie, de paix, de patience, de douceur, de bonté, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Connaissez-vous ce fruit, frères et sœurs? Il provient de la montagne d'Hébron. Voulez-vous cette montagne? Jésus a fréquenté quelques montagnes, la montagne des Oliviers. La pire de tous, pour que nous puissions posséder un jour notre montagne, la montagne du Calvaire. Et la montagne du Calvaire, à vue humaine, elle n'était pas glorieuse pour lui. Elle est devenue pour nous. Parce que si nous avons accès à la résurrection ce matin, c'est parce que Christ a su monter sur le mont du Calvaire. Il a su se rendre jusqu'au bout de la montagne que Dieu avait placée pour lui. Il n'a pas regardé uniquement le chemin qu'il avait à faire. Il savait qu'il devait y aller. Il savait que Dieu lui en donnerait les forces. Il savait que Dieu, que le Père, serait toujours avec lui, qu'il ne l'abandonnera jamais. Sur la montagne, quand il est mort pour nos péchés, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit, « Mon Dieu, pardonne-leur. » Parce qu'au moment où il a pris vos péchés, mes péchés sur lui, pour la première fois depuis toute éternité, Dieu s'est tourné le regard de son Fils, incapable de voir le péché qu'il représentait. Mais l'amour du Père ne lui a jamais fait défaut. Voilà pourquoi il a dit, « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le Seigneur pourrait dire la même chose pour son Église ce matin quand il nous regarde. « Père, pardonne-leur, car nos enfants, mes enfants ne savent pas ce qu'ils font. » Ils perdent du temps en boudant tellement de futilité au lieu de proclamer la parole. Raph Chalist décrit sa vision de l'Église dans un de ses livres. Il dit que l'Église, à partir du moment où elle devient un trouble social, elle est condamnée à fermer. À partir du moment où elle oublie les perdus à l'extérieur, elle est condamnée à fermer. Et le pasteur est engagé pour enterrer les membres un par un et fermer l'Église à clé un jour. Frères et sœurs, l'Église, c'est le seul organisme que le pouvoir, à qui Dieu a donné le pouvoir de pouvoir ramener des gens de la mort à la vie, spirituellement parlant. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre à travers le monde, c'est la seule. Si on ne s'applique pas à ça, on ne doit pas s'étonner que le diable prend de plus en plus de place dans notre société. Que le nom de Dieu est blasphémé, que Jésus-Christ est une véritable risée et que la Bible passe pour un livre simplement, un livre qui n'est pas assez de mode, un livre qui ne veut rien dire et que seuls les illuminés peuvent se permettre de croire. Frères et sœurs, parce que l'Église ne fait plus son travail. Nous sommes appelés non pas à assommer les gens avec la Bible, nous sommes simplement appelés à rencontrer des gens et quand l'occasion se présente de pouvoir leur parler de l'amour que Dieu a déposé en Jésus-Christ dans ma vie et dans votre vie. Simplement ça. C'est ça l'évangélisation. Vous savez ce que c'est évangéliser? C'est d'arriver, tu rencontres quelqu'un, et là la personne elle voit que tu as quelque chose de différent sur ton visage, parce que tu vis différemment des gens. Et dans son cœur, elle se dit, moi je vais avoir ce que cette personne-là a. Ce que cette personne-là, j'ai cherché ça toute ma vie, c'est ce que je me suis dit. Hein. Il n'avait même pas encore prononcé le nom de Jésus. Hein. Mais l'homme que je vous parle, il s'appelle Réal Paquette. Il avait déjà atteint le sommet de sa montagne. Et ce qu'il dégageait, c'est indescriptible, il faut le voir, je ne peux pas vous le dire. Quand je regardais son regard, quelque chose, une voix qui disait dans mon cœur, ce que tu cherches depuis toute ta vie, lui, il l'a. Et il m'a partagé simplement son témoignage, comment Dieu avait changé sa vie. Pas en prenant des médicaments, pas en se saoulant, pas en se droguant. Simplement lorsqu'il a rencontré une personne. Et j'ai voulu savoir c'était qui cette personne-là. C'est Jésus. J'avais le choix de dire Jésus, c'est un fou, c'est un malade, il n'a jamais vécu. Et j'avais tellement faim. Et à travers son témoignage, je me disais, si Jésus fait ça à travers cette bonne homme-là, il est sûrement capable de faire la même chose à travers moi. Et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre, frères et sœurs. Pas des versets bibliques qui sont lancés alors qu'on ne vit rien avec le Seigneur. Ça n'a pas d'impact. Mais qu'on soit des gens enfermés pour Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas d'être comme des fans de football ou des fans de hockey. Il y en a dans le football qui embarquent même sur les terrains, qui assomment les arbitres, qui sautent sur les joueurs tellement qu'ils sont fâchés. Ça, c'est des enthousiasmes un peu déréglés, quoi. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des enthousiastes un peu déréglés, simplement partager l'amour que Dieu a déposé dans notre cœur, la vie que Dieu a déposée dans notre cœur, l'espérance que Dieu a déposée dans notre cœur, la joie, la paix. Frères et sœurs, est-ce qu'on est conscient que ce monde est en train d'expirer à l'extérieur? Ils sont sans aucune espérance. Nos gouvernements n'ont rien, aucune solution. Et on a la solution non pas simplement pour ce monde, mais pour le monde, pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous a donné une montagne. Êtes-vous encore arrêté au bas de la montagne parce que vous traînez tellement de choses avec vous pour grimper cette montagne que c'est tellement lourd, ces choses du monde qui vous gardent en bas? Êtes-vous capable de vous en détacher et de dire, Seigneur, moi je vis en fonction des promesses qui sont en avant, j'oublie ce qui est en arrière comme l'apôtre Paul et je garde mes yeux fixés vers l'avant. Seigneur, donne-moi un coup de main, aide-moi à me détacher de tout ce qui m'empêche de grimper. Je veux grimper le plus vite possible, Seigneur. Parce que sur le sommet de la montagne, quand j'atteindrai le sommet de la montagne, ce sera la plénitude, Seigneur, avec toi. Pourquoi ne pas être comme le vieux Caleb et dire une fois pour toutes, je vais prendre tous les moyens qu'il faut pour posséder cette montagne, je vivrai dorénavant pour Dieu. Chers amis, en terminant, je vous dis que nos jours sont comptés. Il ne nous reste qu'un certain nombre de semaines, voire même un certain nombre d'heures pour servir Dieu. Il est temps que nous arrêtions de nous contenter d'écouter seulement les sermons et que nous commencions à être des alpinistes spirituels comme Caleb. À partir de maintenant, pourquoi ne pas se dire « À partir de maintenant, je vais prendre le temps de vivre pour Dieu. » De vivre pour Dieu. J'essaie d'imaginer ce qui arriverait si les gens qui se contentent d'écouter les sermons le dimanche matin se disaient « Je m'engage pour Dieu, je veux cette montagne, elle m'appartient. » Rappelons-nous que Dieu nous a promis de toujours nous entraîner. Et ça, c'est important, un verset qui est mal compris, 2 Corinthiens 2,14. Dieu nous a promis de nous entraîner dans le cortège de victoire de son Fils Jésus-Christ. Savez-vous ce que ça veut dire, dans le cortège de victoire de son Fils Jésus-Christ? Ça veut dire qu'il a remporté plusieurs victoires et que nous sommes entraînés avec lui. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur le monde. Il a remporté la victoire sur le diable. Et il nous entraîne dans ce cortège. Nous sommes libérés parce que nous le suivons. Parce que nous l'avons accepté. C'est pas extraordinaire. S'il nous avait demandé de le faire par nos propres efforts, mais il dit non, arrêtez. Arrêtez, je l'ai fait pour vous. Vous allez tomber dans le piège si vous commencez à essayer de vous débarrasser de ci, débarrasser de ça. Vous allez fonctionner par votre chair. Vous n'y arriverez jamais. Je l'ai déjà fait. C'est ce que la Bible nous dit, il était tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il a remporté la victoire dans tous ces domaines-là. Quand le diable l'a vu sur la croix, la dernière tentation, c'est qu'est-ce que c'était? Descends, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Oui. Ça, c'est un des géants que Jésus a dû vaincre à la croix. Son égo, heureusement qu'il n'y en avait pas. S'il descendait, frères et sœurs, c'était foutu pour nous, Descends, vas-y, montre-nous que tu es le Fils de Dieu. Allez, vas-y, descends. Un diable qui criait en arrière. Allez-y, faites-le descendre. S'il descend, je l'ai vaincu. La dernière tentation sur la croix. Ouais. Mais son amour était plus fort que son égo. Il est mort pour vous, il est mort pour moi, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu veut faire en Jésus-Christ à travers nous. Que notre amour soit plus grand, que notre amour pour les autres, pour ceux qui sont perdus, soit plus grand que notre ego. Que nous arrêtions de nous regarder le nombril et que nous regardions les gens à l'extérieur qui souffrent de toutes sortes d'abus. Parce que Dieu appelle l'Église à proclamer un beau message, un beau témoignage, le changement intérieur que Dieu a opéré en Jésus-Christ dans votre cœur et dans mon cœur. et que nous puissions le louer et le célébrer. Beaucoup d'excuses des chrétiens aujourd'hui, c'est que j'ai pas le temps, mais on passe combien d'heures devant la télévision chaque semaine? On prend le temps de regarder des films. On prend le temps de regarder des séries. On veut tellement pas les manquer, les séries, qu'on les enregistre même, frères et sœurs. Et combien de temps on a pour consacrer à lire un chapitre par jour, à prendre 5 minutes pour prier le Seigneur? Frères et sœurs, c'est un combat spirituel incroyable. Mais tant aussi longtemps qu'on en est là, on est toujours au bas de la montagne. On n'a pas commencé encore de la gravir, parce qu'on n'est pas comme Caleb, on n'est pas consacré entièrement à Dieu, notre cœur n'est pas pur. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir de prêcher comme ça, frères et sœurs? Mais j'ai un fardeau terrible pour cette Église. J'ai un fardeau terrible pour vos âmes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes au neutre, spirituellement parlant. L'engagement fait défaut. La consécration fait défaut. Et mon cœur pleure à cause de ça. Je me remets en question en disant, est-ce que l'enseignement que je donne est bon? Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre ou si je dois leur lancer des fleurs à toutes les semaines? Ma grande prière ce matin, c'est que vous deveniez tous des Caleb. Qu'on puisse rentrer dans cette salle en bondissant de joie et en partageant les témoignages qu'on a vécu tout au long de notre semaine parce que notre cœur est entièrement consacré au Seigneur.